Isabelle Fontaine, bonjour.
Bon matin.
On parle ce matin des funérailles de Bernard Landry. Tu y étais hier?
Oui, absolument. Avec un très, très grand nombre de personnes.
Oui, il y avait du monde.
Une basilique remplie. C'était une cérémonie incroyable, honnêtement. Monsieur Landry, hein, on nous l'a dit au début, avait prévu lui-même chaque instant de cette cérémonie. Le résultat était à l'image de l'homme. 2 heures de témoignages, mais chacune des 12 personnes qui sont venues prendre la parole, hein, 3 anciens premiers ministres. En fait, le premier ministre et 2 anciens premiers ministres.
C'était quand même un petit peu long, quand même, soyons honnêtes, là.
Honnêtement, je pense que pour toutes les personnes qui étaient là, qui l'ont côtoyé de près ou de loin, il y a eu, dans chaque intervention, de quoi se rappeler le moment de proximité qu'on a eu avec cet homme-là. Moi, à aucun moment, j'ai trouvé ça long.
Donc, peut-être pour le grand public, alors. Mais en même temps, une cérémonie, n'est-ce pas d'abord et avant tout pour les proches?
Absolument. Puis on était très, très nombreux à se considérer proches. En tout cas, d'avoir eu un moment de proximité. Puis c'est ça qu'on a constaté, à quel point cet homme-là était dans le privé avec sa famille, par le témoignage de sa fille Pascale. Exactement le même homme qu'il était, même dans des foules de militants ou même de citoyens. Tu sais, quand on était dans une salle où M. Landry était, on avait toujours l'impression qu'il considérait chacune des personnes à qui il s'adressait, qu'il avait de la considération pour eux. Puis hier, chaque personne qui est venue témoigner nous refaisait sentir ce moment-là. C'était comme un grand discours de M. Landry.
À quel moment tu l'as côtoyé?
Moi, je l'ai côtoyé jusqu'à la fin de son mandat de premier ministre, donc jusqu'en 2003, puis jusqu'à sa démission en 2005. J'étais à l'aile jeunesse du Parti québécois, donc je l'ai côtoyé d'assez près. J'ai fait campagne en 2003 avec lui.
As-tu trouvé que c'était à la hauteur de l'homme?
Absolument, absolument. J'ai trouvé que c'était un très grand moment de lumière. Les interventions, même celle de... On attendait beaucoup celle de Jean Charest, évidemment
parce
comme un adversaire politique.
Mais quel orateur en même temps!
Ah oui. Toujours. Jean Charest ne nous déçoit jamais. Mmh. Il sait capter une salle qui, on l'aurait pu le croire,
hostile était plutôt à la limite,
hostile à la limite, ou en tout cas une salle d'adversaire, comme M. Landry le disait. Alors, M. Charest a su mettre de la couleur sur leur relation de politiciens qui étaient dans des camps opposés, qui se sont fait face comme premier ministre et chef de l'opposition dans les deux sens. C'était très beau. Même l'intervention de François Legault aussi, moi, j'attendais beaucoup de voir comment François Legault se retrouvait, qui a été collègue, qui a été ministre dans le gouvernement de M. Landry, qui là se retrouve à son tour premier ministre. Son intervention était bonne. Il a rappelé que pour lui aussi, le Québec était quelque chose comme un grand peuple. Je pense qu'elle a beaucoup touché les gens. Puis surtout, quel détour de l'histoire. T'sais, c'est François Legault qui avait la responsabilité à la fin de la cérémonie de prendre le drapeau qui recouvrait le cercueil et de le remettre à l'épouse de M. Landry, Chantal. Mais moi, j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer, quelle signification ça aurait eu complètement différente si ça avait été Philippe Couillard, par exemple. T'sais, là, on peut sentir chez François Legault ce nationalisme économique, notamment un héritage de M. Landry. Donc, ça donnait une belle couleur à la cérémonie.
Il est peut-être un souverainiste réaliste, mais il y a un fond souverainiste assurément chez M. Legault, là.
Ah, ben absolument. Puis, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il a fait le saut en politique à la fin des années 90. Puis, moi, je continue de croire que, évidemment, le contexte est difficile. Tu sais, c'est une cérémonie pleine de lumière où on a parlé de la nation québécoise, de la marche inexorable du Québec vers son indépendance. Mais quand on sortait de l'église, on n'avait pas l'impression que ça allait être demain. En même temps, François Legault, si un concours de circonstances incroyable faisait en sorte que l'indépendance revenait à l'ordre du jour, puis qu'il y avait une volonté populaire, je pense pas qu'il raterait cette occasion-là de marquer l'histoire. Mais on est réaliste. On pense pas que ça va arriver demain.
Pas
on peut s'occuper d'autre chose en attendant.
J'ai pas vu d'opportunisme.
Hier?
Tu sais, de quelqu'un là, qui vraiment là, est allé... Il me semble que tout le monde est demeuré pas mal dans les marges.
Tout le monde est demeuré. Puis ce qui est intéressant, c'est que chacun mettait en lumière un aspect différent de M. Legault, de M. Landry. Pascale Bérubé a parlé de son legs politique. Moi, ma préférée, ça a été Jamila Benhabib, qu'on connaît moins, mais qui est une femme qui a beaucoup fait pour la laïcité de l'État, qui est une intellectuelle de très grande qualité qu'on connaît trop peu, je pense, et qui a raconté à quel point qui a fait un lien entre l'aspiration de M. Landry pour la nation, mais aussi son très grand humanisme qui était universel. Pour M. Landry, chaque personne qui résidait au Québec, qui faisait le choix d'être Québécois, l'était d'emblée. T'sais, il avait un amour de l'humain qui dépassait toutes les frontières. Puis elle a vraiment bien exprimé ça. C'était la meilleure intervention
de ce moment. Absolument. On revient chez nous. Cabinet du maire, ce matin, page 7 de la Tribune, on nous rapporte des chiffres. L'actuel maire, Steve Lussier, a pour 596 750 $ de montant pour 2018 qui avait été budgété pour son cabinet. Il y aura une hausse d'ailleurs de 35 000 $ pour l'année 2019. On parle de hausse salariale là, pour un peu tout le monde de 2 % puis petite embauche supplémentaire à gauche, quelques heures ici et là. C'est exactement la même somme que faisait Bernard Sévigny en 2017 et qui avait été quand même critiqué, entre autres, là-dessus.
Prenons un peu de hauteur, parce qu'il y a toute la question des partis politiques là-dedans aussi. T'sais. La loi. Une loi, qu'est-ce qu'elle prévoit, la loi québécoise? Pas l'opinion du maire ou des gens qui l'appuient ou qui l'appuient pas. La loi, elle prévoit que quand tu es un groupe d'élus ou de candidats, tu peux te regrouper sur une bannière sous un parti et présenter ta vision et tes orientations aux électeurs. Puis quand il y a un bassin suffisant d'électeurs qui appuient cette vision-là et que
tu
fais
droit à des sommes d'argent,
au moins un élu, tu as le droit d'avoir un budget de fonctionnement pour défendre et faire avancer ton orientation au conseil de ville.
Exact.
Hein? Le renouveau cherbourgois avait décidé, ce qui était à mon avis une très mauvaise décision, de se priver de ce budget-là. Mais Sherbrooke Citoyen l'a pris. Et de la façon dont, c'est une enveloppe complète qui est séparée 50 % au maire et l'autre 50 % entre les formations qui la réclament. Dans ce cas-ci, parce que le renouveau cherbourgois a décidé de ne pas réclamer un seul sou, ça permet au maire d'aller au-delà de son 50 %, ce qu'il fait dans ce cas-ci. Après nous avoir fait il y a un an la morale sur le fait que c'était de l'argent public puis qu'il fallait y faire attention, moi je trouve que c'est ça qui est le plus incohérent dans cette position-là, c'est qu'alors que il y a quand même 32 % des Sherbrookeois qui ont dit « Moi, la vision de Bernard Chevigny puis du renouveau Sherbrookeois, je la défends », il n'y a pas de budget ou de somme allouée à Vincent Boutin, qui est le chef du renouveau, pour présenter sa vision puis la porter à l'hôtel de ville. C'est son choix, vous allez me dire, mais quand même. Et le maire, lui, il empiète sur cet espace-là pour défendre sa propre vision.
Et forcé d'admettre qu'un maire indépendant au pouvoir ou un maire chef de parti au pouvoir, ça coûte la même affaire.
Absolument. Ben, en tout cas, c'est ce qui illustre. T'sais. Puis l'autre chose, c'est à un certain moment, le maire nous disait « Nous avons des fonctionnaires, une fonction publique solide sur laquelle on peut s'appuyer. » Ben, si c'est le cas...
Pourquoi as-tu besoin d'autant de monde?
Pourquoi as-tu besoin de staff politique? Si toi, tu considères qu'il ne devrait pas avoir de staff politique pour tes opposants pour défendre leur vision parce que les fonctionnaires sont assez bons, ça devrait s'appliquer à toi aussi. Moi, je trouve que là-dedans, il y a plein d'incohérences. Puis je trouve que ça nous éloigne de la réelle démocratie. T'sais. Dans nos démocraties, même sur la scène municipale, les projets, les idées, les orientations, elles se construisent et elles s'améliorent du choc des idées, des orientations de chaque représentant qui est au conseil. Puis là, on se prive de ça.
Je trouve ça un peu particulier aussi que des fois, quand tu compares certains salaires, tu sais, comme le chef de cabinet, quand tu regardes, par exemple, l'attaché politique, écoute, t'as à peu près le double. On est quasiment dans le double à chaque fois quand tu regardes, par exemple, du côté d'Évelyne Baudin et de son parti. Quand tu compares, le maire.
Ouais. Mais en
le
même
maire
temps,
paye à peu près le double pour
Évelyne
chaque poste.
Évelyne Baudin, elle a fait le choix d'avoir des très faible salaire, on s'entend, pour des gens. Ça fait en sorte que, tu sais, on voudrait avoir un débat politique plus élevé, des dossiers mieux appuyés, de la recherche de plus grande qualité. Mais à un moment donné, il faut embaucher des gens avec une certaine expérience qui méritent un salaire aussi élevé. C'est aussi de ça qu'on se prive.
Donc, toi, t'as pas de problème avec les salaires qui sont payés par le maire?
Moi, j'ai pas de problème avec les salaires. J'ai un problème avec l'équité entre les partis puis les représentations. Mais maintenant, si le maire paie ses salaires, il faut que ses projets puis ses positionnements politiques soient à la hauteur des salaires qu'il paie.
En même temps, pour l'équité, est-ce qu'on ne devrait pas avoir deux élus minimum pour pouvoir toucher un budget de parti? T'es tout seul dans ta gang?
Ben oui, mais en même temps, tu as 20 % de la population qui a appuyé ta vision de la ville puis ton orientation, ou 32 dans le cas du renouveau Sherbrookeois.
Et donc, t'sais, 80 % qui ne l'appuyaient pas?
Ben oui, mais ils ont appuyé le maire, puis il y a pas mal d'argent pour défendre sa vision politique. Tu sais, en même temps, là, ça, c'est prévu dans la loi des cités et villes. Puis la loi des cités et villes, il y a des députés qui ont réfléchi pendant de longs mois pour en arriver à cette règle-là. J'ai pas relu tous les débats qui ont mené à ça, là, ce qu'on appelle les fondements de la loi, mais d'après moi, c'est assez juste comme règle.
Isabelle Fontaine, merci d'être passée.
À demain.